Te voyons couronné de gloire et d'honneur. Après la mort que tu as soufferte, tu es maintenant glorifié, magnifié, et tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Nous sommes en paix, Seigneur, parce que tu règnes, parce que tu es vivant, et parce que tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ces instants bénis. Merci pour ta présence. Ouvre pour nous le Saint-Livre, Seigneur, et que nous puissions encore mieux comprendre ta parole et surtout mieux obéir, afin d'être de vrais disciples de Jésus-Christ. Tu l'as dit toi-même, vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Seigneur, nous voulons être de vrais disciples. C'est pourquoi nous voulons demeurer dans ta parole. Illumine-la à nos cœurs et nous comptons une fois de plus sur l'assistance et le ministère du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous t'aimons et nous t'adorons. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous restons encore dans la présence du Seigneur. Il est là et il veut encore continuer de nous enseigner, nous parler et nous instruire, car nous en avons besoin continuellement. Amen. Nous allons voir et continuer sur le sujet de ce matin dans 2 Timothée chapitre 4. Nous avons vu le premier verset et nous allons méditer un petit peu la suite. Je crois que c'est important pour avoir une pensée générale et un peu plus précise de ce que Dieu veut nous dire et de ce que Paul voulait dire à Timothée dans ses paroles solennelles, n'est-ce pas vrai? Et le titre du message sera « Comment rester fidèle en des temps d'apostasie ?» Ce matin, c'était « Comment ne pas dévier dans la vie de l'esprit, n'est-ce pas ?» Et maintenant, « Comment rester fidèle en des temps d'apostasie ?» Et là, nous avons une réponse que Paul nous donne. Et nous allons aborder la même façon d'étudier comme ce matin, où nous allons nous arrêter sur certains mots qui ont une valeur et une très grande importance lorsque nous les découvrons plus spécialement dans le texte grec. Et nous allons voir combien cette parole que nous avons est vraiment la parole de Dieu. Parce qu'elle est celle qui correspond à nos besoins et surtout à la situation actuelle. Parce que lorsque cette épître a été écrite, Paul s'adressait à Timothée en parlant des temps de la fin. Vous savez, quand il est dit au chapitre 3, verset 1er, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais quand il est dit « Sache que dans les dernier jour », le mot « dernier » ici, dans le texte grec, veut dire « dans les derniers des derniers jours ». Donc, les jours qui précéderont l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur. On est vraiment dans cette période-là. Les derniers des derniers jours, et nous y sommes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle doit être ton attitude, mon attitude? Comme les chrétiens de Bérée, nous devons toujours examiner à la loupe, dans les détails, pour voir si tout ce qu'on nous dit est vrai, et aussi pour sonder cette parole. Alors, comment rester fidèle en des temps d'apostasie? On va relire le texte, peut-être, de Timothée 4, pour nous remettre dans le bain. Voici ce que Paul dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, prêche, prêche, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Que c'est tragique. Détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables, des mythes, la mythologie, vers des choses bizarres. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors nous allons commencer là où nous sommes arrêtés ce matin, où nous avons médité sur le passage « Prêche la parole ». Nous allons maintenant continuer en commençant avec le verbe « insiste » en toute occasion. Et là encore, ce mot est très important. Alors, soulignez ce mot, insiste, dans votre Bible. Et dans le grec, ce mot est un terme militaire qui nous parle de combat et qui veut dire reste fermement à ton poste. Ça veut dire rester fidèlement à son poste. C'est là une pensée extrêmement importante. C'est un terme, une expression militaire Et Paul demande à Timothée, tu es comme un soldat de Jésus-Christ, il y a un combat entre les ténèbres et la lumière, entre la vérité et le mensonge, entre la saine doctrine et les fausses doctrines. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un combat, n'est-ce pas vrai? C'est un véritable combat. Prenez un peu position dans ce domaine-là pour la saine doctrine. Vous allez voir que vous entrez dans un combat. Vous allez voir, vous serez étonné de la réaction des uns et des autres, des amis chrétiens. Vous verrez, ah, oh, mais non, tu, non, il ne faut pas être trop dur, trop sévère. Vous voyez, ça vient, ça commence. Ça y est, les cœurs sont révélés. La vérité révèle les cœurs. Alors, l'apôtre dit, insiste en toute occasion. Autrement dit, il lui dit, reste fidèle à ton poste. Quand à l'armée, quelqu'un ne reste pas fidèle à son poste, c'est un quoi? Un déserteur. Et vous croyez qu'un déserteur a la bénédiction de son général ou de son commandant? Est-ce qu'un déserteur est bien vu à l'armée? Vous savez très bien qu'un déserteur n'est pas bien vu. Et il y a même de très une très grave condamnation sur lui quand quelqu'un fuit son poste. C'est quelque chose de très grave à l'armée, n'est-ce pas vrai? Et vous croyez que dans l'armée du Seigneur, ce n'est pas aussi grave et aussi important? C'est cela la tragédie, mes amis. On pense que dans le monde, ces choses-là sont sérieuses, mais qu'avec Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Vous croyez que c'est comme cela? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens lisent la Bible comme cela. Beaucoup de pasteurs disent, « Oh non, ça fait rien. Tu es une sentinelle. » Tu dois rester à ton poste, mais ça fait rien. Ce soir, tu es fatigué. Ne garde pas la citadelle. Va, il y a des amis, ils sont en train de faire la fête. Abandonne-les pendant une heure. Va t'amuser. Vous croyez que ça marche comme cela? Vous croyez que le Seigneur nous dit, va t'amuser comme ça? Quand on est à notre poste, on doit être sérieux. Amen. Reste à ton poste. C'est là ce que Dieu veut nous dire à chacun, chrétien ou pasteur ou serviteur de Dieu. Ne déserte pas. Parce qu'un déserteur aura une grave condamnation, n'est-ce pas vrai? Ne pensez pas que là-haut nous aurons l'approbation si dans notre cœur nous désertons notre poste de rester fidèles au Seigneur et à sa parole. Sentinelle. Le Seigneur nous prend pour une sentinelle. Et vous savez, quand vous êtes une sentinelle dans la nuit, moi j'ai fait mon service, il y a des nuits où on devait rester dehors. La nuit, c'est toujours impressionnant, vous êtes d'accord avec moi? Dans la nuit, il y a toujours des bruits, il y a toujours des choses qui se passent. Vous avez toujours l'impression que l'ennemi est partout. Surtout en période de guerre. Qui c'est qu'il y a derrière? Ça bouge un petit peu. Le moindre bruit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui est impressionnant, c'est quelque chose qui est sérieux. Mes amis, que nous le voulions ou pas, tu es une sentinelle. Et le Seigneur te dit, reste à ton poste, ne déserte pas. S'il y en a d'autres qui désertent, toi, tu dois rester fidèle. Amen. Tiens ferme, Seigneur. Je veux te rester attaché. Et si d'autres t'abandonnent, moi, je ne veux pas t'abandonner. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande. C'est extrêmement sérieux, extrêmement important. Et quand nous entendons le langage d'aujourd'hui dans différentes églises, « Oh, c'est rien. Oh, oui, encore une fois, la doctrine, c'est rien, il ne faut pas couper les cheveux en quatre. » Voyez-vous ? Comme pour dire, c'est rien, tu n'as pas besoin de rester à ton poste. Ça, ce n'est pas si important que cela. Et on veut nous dire que c'est le Saint-Esprit qui les fait parler comme cela. Le Saint-Esprit ne dit jamais que ce n'est rien, n'est-ce pas vrai? Le Saint-Esprit nous dit au contraire, c'est sérieux. Tu es une sentinelle. Et un jour, écoutez-moi bien, mes chers amis, ce sera pour vous comme pour moi. Un jour, Dieu vous demandera des comptes. Il vous dira, je t'ai établi comme une sentinelle là où tu es. Ah, je sais que nous n'aimons pas ces choses, mais il en est ainsi. Reste à ton poste. Un jour, il vous demandera si vous êtes resté à votre poste, dans le sens de fidélité au Seigneur et à sa parole. Si tu as été fidèle, tu es resté, tu as combattu le bon combat, il te dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Mais que lui diras-tu si tu as déserté? Seigneur, mais c'était trop dur. Mais avec lui, c'était mon ami, je ne pouvais pas faire autrement. Il m'a dit de venir, je suis allé. Puis c'est le pasteur aussi, je l'ai écouté. C'est ta faute. Non, non, non. Devant Dieu, chacun est responsable.
Amen.
Amen. Tu ne pourras pas dire c'est la faute de ton frère, de ta sœur, du pasteur ou d'un autre. Chacun est responsable. Es-tu resté à ton poste? Ah oui, mais c'était... Alors, et les chrétiens de Béret, tu n'as pas lu? Ils ont examiné toujours. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Ah ben moi, j'étais en vacances, j'avais pas le temps. Pas le temps d'examiner. On n'a plus le temps aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? On est trop pressé. Reste à ton poste. Mes amis, c'est dans ces moments-là que le Seigneur a le plus besoin de nous. Amen. C'est pas quand tout va bien, mais c'est quand tout va mal que le Seigneur veut compter sur toi. Pourra-t-il compter sur toi lorsque tout va mal? Pourra-t-il te confier quelque chose lorsque tout va mal? C'est facile quand il faut suivre la foule, quand tout le monde est là, suivant le même chemin. C'est très facile. Mais peut-il compter sur toi lorsque l'opposition est là, la contradiction est là, lorsque tu as le sentiment d'être seul? La sentinelle est souvent seule, n'est-ce pas? Souvent seul. Il faut qu'il passe le relais à la prochaine sentinelle qui arrive. Il est seul, mais il doit rester fidèle. Et souvent, nous avons l'impression d'être seuls, mais nous ne sommes jamais seuls. Nous l'avons vu, le Seigneur du ciel veille sur nous pour voir ce que nous ferons. Que fais-tu de ta vie? Alors, où le Seigneur a besoin de sentinelles fidèles. Soyons de ces gens-là qui disent « Présent Seigneur, je veux être cette sentinelle. » Amen. Mais si tu as déserté, que vas-tu lui dire? Quelle confusion de face! Oh, que le Seigneur nous préserve! Que nous préserve, Seigneur! Je veux répondre présent à ton appel. Et je veux rester à mon poste, au pied du Seigneur et de sa parole. Et je veux que tu me dises, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Amen. Oh, que nous soyons tous à notre poste lorsqu'il reviendra. Soyons tous à notre poste. Voyons le deuxième mot. En toute occasion. Il est dit après, insiste, en toute occasion, favorable ou non. Alors, dans le grec, favorable ou non veut dire reste à ton poste quand les circonstances sont favorables ou mauvaises. Ou encore, Timothée, la parole de Dieu est toujours vraie, quelles que soient les circonstances. C'est comme si Dieu dit, en toute occasion, favorable ou non, reste fidèle. Les circonstances sont favorables, eh bien, c'est bien d'être un chrétien, alléluia. Mais dans les circonstances défavorables, il faut aussi être un chrétien, amen. Amen, Seigneur, ta volonté soit faite jusqu'au bout. Beaucoup de chrétiens sont de chrétiens, alléluia. Il faut l'être, j'en suis un. Mais il faut être aussi un chrétien, amen. Dans les temps défavorables, en toutes circonstances favorables ou non, Sa parole est la même. Avec le temps, sa parole ne change pas. Le problème dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ses apôtres et ses prophètes viennent avec de nouvelles révélations. Un jour, un pasteur d'Amérique nous a téléphoné à la maison. Personne que l'on connaissait comme ça. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? J'étais surpris. Il me dit, frère Sam, en anglais un peu, il m'a dit, qu'est-ce que le Seigneur vous a révélé ces derniers temps ? Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que je dis ça ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé ? Ces nouvelles... Est-ce que tu as... le Seigneur t'a révélé de nouvelles choses ? Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je lui ai dit, mais moi je prêche la parole, il n'y a pas de nouvelles choses. Mais j'ai compris. Ils sont dans ce bain de nouvelles révélations. Vous savez, je pense à une chose. Ces apôtres et ces prophètes dont je vous parle, ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Et vous savez ce qu'ils disent dans leurs prophéties ? Ils disent que dans les derniers temps, les chrétiens des derniers temps vont atteindre une telle maturité que les apôtres, même Paul, Pierre, Jacques et Jean, viendront vous voir. Ils feront la queue pour venir vers vous et entendre ce que Dieu vous a donné et tout ce que Dieu peut faire dans votre vie. Vous rendez compte ? Quelle hérésie ! Mais c'est écrit ! Même l'apôtre Paul va venir se mettre presque à genoux devant vous. Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé ? On est compte ? Et il y en a qui mordent à cela. Et c'est pourquoi dans ces milieux, il y a un esprit de supériorité, d'orgueil. Ils ne s'abaissent pas, ils ont une révélation supérieure à la vôtre. Ils pensent que vous êtes ignorants. Ils nous prennent pour des ignorants. Et ils nous méprisent. Ils ne marchent plus par la parole. Ils ont des révélations à côté, au-dessus même de la parole. Selon la parole de Dieu, c'est du gnosticisme. Ce sont des gnostiques charismatiques. Qu'est-ce que le gnosticisme ? Déjà du temps de l'apôtre, ça existait. Ces gnostiques, c'était des gens qui croyaient en la parole, mais aussi en des révélations surnaturelles. C'est des gens qui avaient souvent des visions, des révélations. Et pour eux, les expériences qu'ils faisaient d'une manière extra-biblique, puisqu'ils les avaient vécues, ils avaient vécu des choses extraordinaires parce qu'ils les avaient vécues, ces choses-là étaient considérées pour eux comme la vérité. C'est pourquoi dans ces milieux, vous entendez, vous m'enlèverez jamais ça de la tête, moi je l'ai vécu. Vous voyez ? Regardez, ça c'est du gnosticisme. Moi je l'ai vécu. Comme pour dire, ce que j'ai vécu, c'est la vérité. Comment c'est la vérité ? C'est pas parce qu'on a vécu une chose qu'elle vient forcément de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? La question n'est pas, ça m'a fait du bien. Je l'ai vécu, ça m'a fait du bien. La question finale n'est pas là. La question finale est, ce que j'ai expérimenté est-il biblique ? C'est tout simple. Non pas, est-ce que ça m'a fait du bien ? Mais est-ce biblique ? Amen. Amen. Cette simple question peut nous sauver, mes amis. Ah oui, mais non, vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas, c'est vrai. Vous avez en vous, devant vous comme un mur. Oh là là, moi-même j'ai été guéri et tout. Mais dans le secte aussi, il y a des guérisons. Il y a un peu partout, il y en a. Certains gourous, quand ils imposent les mains, vous tombez par terre. Et vous avez comme un ravissement. Et il y en a qui pensent que tout ce qu'on voit, c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Quand on sait un petit peu ce qui se passe autour, c'est bien l'influence du nouvel âge. C'est un christianisme du nouvel âge que nous commençons à vivre. Et qu'on nous impose en plus. Parce qu'il y a des menaces, n'est-ce pas vrai ? Alors les nouvelles révélations, favorables ou non, c'est-à-dire que Dieu ne donne pas de nouvelles révélations. Toute la révélation est dans la parole. Cette révélation est finale. Amen. Nous devons combattre pour la foi transmise au saints une fois pour toutes. Tout est là pour notre foi et pour notre marche dans la vie chrétienne. Tout est là. Si quelqu'un vient vous dire qu'il a une nouvelle révélation qui n'est pas dans la parole, cette révélation ne vient pas de Dieu. Elle est à rejeter, favorable ou non. Cela veut dire que la parole demeure la même, quelles que soient les circonstances et les époques. Amen. Vous savez, la grande ruse dans ces milieux-là, il faut comprendre ces choses. Je vous parle un peu à cœur ouvert. On est là en famille, on se connaît pour la plupart depuis longtemps. Il faut qu'on parle simplement. Une des plus grandes ruses au milieu d'eux, vous savez ce que c'est? C'est qu'ils pensent que dans les derniers temps, justement, et il y a des prophéties là-dessus, voyez-vous encore, on ajoute des choses. Et quelles sont ces prophéties? Qu'il y aura un réveil extraordinaire. Et que même des nations se convertiront. Mais c'est ça. Mais vous savez qu'il y a des prophéties là-dessus. On reçoit beaucoup de magazines d'Amérique et tout ça. Mais que de prophéties! Beaucoup d'évangélistes, de grands apôtres, soi-disant, ils prophétisent tous un grand réveil à la fin des temps. Mais où avez-vous ça? Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il y aura des âmes sauvées, il y aura des corps guéris, tout à fait d'accord. C'est la vie normale de l'Église, n'est-ce pas? De sauver, de guérir, de délivrer. Ça, c'est normal. C'est la vie normale de l'Église. Jusqu'à la fin, nous verrons cela. Mais dire que il y aura un réveil mondial. Là, nous dépassons les Écritures. Parce que dans les derniers temps, justement, certains abandonneront la foi. Et c'est dans l'Épître aux Thessaloniciens qu'il est dit. Et le mot abandonner dans le texte grec veut dire apostasiront. Donc dans les derniers temps, concernant le réveil, ce n'est pas un réveil qui va arriver. C'est une apostasie. Un abandon de la foi. Et c'est exactement ce que nous voyons, les amis. Alors, eux, ils nous prophétisent qu'il y aura un grand réveil. Et vous savez, ils croient à leur prophétie. Et qu'est-ce qu'ils font? Dès que ça bouge un petit peu dans un pays, dès que ça bouge un petit peu quelque part, ça y est, c'est le réveil. Et ils ont fait la même chose avec Toronto. Puisque ça bouge un petit peu, ça crie un petit peu, il y avait quelque chose un peu de spécial, ça y est, c'est le réveil. On l'attend tellement, qu'on est prêt à accepter n'importe quoi. Voyez-vous? Quand on est mal informé, quand on accepte des prophéties extra-bibliques, on est là à l'écoute de la moindre chose qui se passe dans le monde et on dit c'est le réveil. Et c'est comme cela qu'on se fait prendre au piège, n'est-ce pas vrai? Mes amis, Jésus n'a-t-il pas dit le Fils de l'homme quand il viendra, trouvera-t-il là la foi sur la terre? Ça, ce n'est pas ma parole, c'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand il reviendra, ce sera loin d'être un réveil mondial. Mais ces messieurs, les prophètes, ont de nouvelles révélations. Ils en savent plus que le Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose, ce ne sont pas leurs paroles qui s'accompliront, c'est la parole du Seigneur. Amen. Alors veillons, en toutes circonstances, ça veut dire favorable ou non, cette parole est toujours la même, quels que soient les temps, les époques, les siècles. C'est la parole de Dieu que nous pouvons serrer sur notre cœur. Elle ne change pas, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Hallelujah! N'est-ce pas merveilleux? Mais les paroles de ces prophètes, de ces apôtres, dans quelques années, ça va disparaître. Et d'autres vont arriver. Et d'autres, on n'en s'en sortira jamais. Alors, troisième point maintenant, reprend. Quand il est dit, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. Oh, reprendre, est-ce qu'il faut reprendre quelqu'un? Dans le texte grec, il y a l'image de quelqu'un qui est devenu un canal pour la parole de Dieu. Le prédicateur est si rempli et fort dans la parole que tous ceux qui l'écoutent sont comme s'ils étaient confrontés à Dieu. Nous avons besoin de ce genre de confrontation dans l'Église aujourd'hui. Amen. Reprends. Paul voulait dire à Timothée, sois un canal. Pas de n'importe quoi. Pas de n'importe quelle révélation. Et c'est justement la maladie de tous ces nouveaux prédicateurs. Ils viennent tous avec une nouvelle révélation. Et ils pensent que s'ils ne viennent pas avec une révélation, ils ne sont pas dans le vent. Ils ne sont plus spirituels, ils sont devenus charnels. Ils pensent que leur ministère est fichu. C'est pourquoi ils ont toujours, toujours besoin d'apporter quelque chose de nouveau. Mais l'apôtre dit, reprend. Dans le texte, c'est « Sois un canal de la parole, pas de n'importe quoi, mais de cette parole. » Soit comme un canal qui
communique cette parole, de sorte que les hommes ne sont pas confrontés avec tes idées, tes expériences, tes convictions, tes sentiments, mais qu'ils sont confrontés. Tu entends parler de prédication, où l'on annonce la parole de Dieu avec autorité. Humilité, c'est vrai, mais avec autorité. Ça, les gens ne supportent plus cela. Comme pour dire, non, non, il faut le dialogue, chacun a son petit mot à dire, voyez-vous. On veut là, non, ben oui, moi je t'écoute, mais tu m'écoutes aussi. Voilà, chacun un petit quelque chose, on peut apprendre des uns des autres. C'est vrai qu'on peut apprendre des uns des autres, là n'est pas le problème. Mais seulement si ce qu'on dit est conforme à la parole. Mais vous êtes d'accord? On peut apprendre les uns des autres, si ce que vous dites est de la parole, j'apprends de vous. Si ce que je dis est de la parole, vous apprenez. Mais si ce que vous me dites n'est pas de la parole, vous croyez que je vais apprendre quelque chose? Vous allez m'empoisonner. Si ce que je vous dis n'est pas de la parole, vous allez apprendre quelque chose? Pas du tout, au contraire. Je vais vous faire du mal. Donc le dialogue et tout cela, voyez-vous, c'est une pensée qui est là de l'ennemi finalement, qui veut détruire cette prédication de la parole. Car comment les gens entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous savez, quand il n'y a pas de prédication de la parole, il n'y a pas de vraie foi. La foi biblique, dans le Seigneur, dans sa parole, dans ses promesses, il n'y a plus de foi. C'est pourquoi dans ces milieux-là, tout est sentimental. Ah, j'ai senti ceci. Ah, j'ai senti cela. Ah, je sens. Oh, j'ai rien senti là. Ça, non, il n'y a plus rien du tout. Uniquement des sentiments. On est là, on plane complètement. Ah, c'est une belle réunion, on a senti la présence. Ah, il n'y avait rien du tout, c'était vide. On n'a rien senti. On ne vit que des sentiments. C'est bien, parfois le Seigneur nous donne des sentiments, mais on ne doit pas vivre de sentiments seulement. Car le sentiment, souvent. Le sentiment, souvent. Ah oui, le sentiment, souvent. Vous ne pouvez pas vivre de sentiments, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon juste vivra par la... Par la foi, par la foi, par la foi, mes amis. Et c'est pourquoi lorsqu'il n'y a pas ce canal, si vous n'êtes pas un canal qui communique la parole de Dieu, nous ne pourrons pas communiquer la vraie foi. Et s'il n'y a pas la vraie foi dans la parole, il y aura, mes amis, la croyance en n'importe quelle doctrine. Et c'est justement la porte ouverte à toutes les hérésies. C'est ce qui se passe. S'il n'y a pas le fondement de la parole, il n'y aura pas de discernement dans le peuple de Dieu. Vous voyez combien c'est important? Le diable voudrait dire, mais non, ça suffit, hein, la parole, on n'a pas besoin de... Hein, comme ça, la parole de... Ah oui, mais c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Et les hommes et les femmes ont besoin d'être confrontés à cela. Mais c'est ce qu'il manque le plus aujourd'hui. Combien nous devons rester à notre poste pour cela? Amen. Il est écrit. La parole de Dieu dit combien nous devons prendre cette parole, qui est l'épée de l'esprit. Prenez-les. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole est votre épée. C'est celle qui vous permet de combattre contre les mauvaises pensées, les fausses doctrines, les fausses philosophies, les fausses expériences. C'est la parole. Ah non, oui, il ne faut pas, non, je sens, il a dit que c'était, non, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la parole, Dieu l'a dit, c'est tranché une fois pour toutes. Amen. Quatrièmement, censure. Il est dit, reprends censure. C'est intéressant de savoir ce que ce mot aussi veut dire, censure, qu'est-ce que ça veut dire? Censure dans le grec epitimao, je n'ai pas fait du grec, hein, moi, il faut me pardonner, qui veut dire arrêter quelque chose. Ça veut dire arrêter quelque chose. Donc faire stopper quelque chose. Si nous prêchons vraiment la parole, cette parole a la puissance d'arrêter, de stopper toutes ces mauvaises choses. Toutes ces hérésies, toutes ces fausses conceptions, la parole seule a la puissance d'arrêter tout cela. Amen. Arrêter quelque chose, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien posent la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter toute cette séduction, toutes ces hérésies? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup disent, il faut prier. D'accord, il faut prier. Mais il faut prier après avoir parlé et annoncé la parole. Vous devez prier après avoir donné la parole. Et si la personne refuse la parole, vous ne pouvez pas faire grand-chose. où vous pouvez prier pour que cette personne entende la parole. Entende la parole qui va stopper en lui cette hémorragie où il perd sa vie spirituelle et il est en train de se disqualifier spirituellement parlant. Il n'y a que la parole qui puisse arrêter cela. Voyez-vous d'où l'importance de faire connaître le message, de prêcher la vérité, mes amis. C'est celle-là qui arrêtera tout ça. Malheureusement, certains n'accepteront pas. Ça, c'est leur problème. Mais d'autres accepteront. Mais comment ? Eh bien, en disant la vérité, en leur communiquant la vérité. Cette vérité peut stopper quelque chose. La parole de Dieu dit, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Amen. Alors, comment faire stopper ? Eh bien, en annonçant cette parole qui a le pouvoir de stopper. Mais si quelqu'un n'en veut pas, mes amis, ne perdez pas votre temps avec cette personne. Ne perdez pas votre temps. Ne faites pas de sentiments. Oh oui, mais vous savez, je l'aime tant. Comment ça ? Laissez. S'il ne veut pas de la parole, laissez-le tranquille. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez prier si vous avez vraiment à cœur que cette personne s'ouvre à la parole. Sans plus. Cinquièmement, exhorte. Qu'est-ce que vous avez ? Avec toute douceur et en instruisant. Ici, on pourrait traduire « exhorte avec patience, en enseignant la doctrine ». Le mot « douceur », c'est plutôt le mot « patience » qui est là. « Exhorte avec patience et en instruisant », ça veut dire « en enseignant la doctrine ». Voyez-vous ici, il y a une pensée importante. La patience et la doctrine, l'enseignement de la doctrine vont ensemble. Parce qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront pas cette doctrine. Et pour prêcher cette doctrine, il faudra être patient. Il faudra prendre son temps. Ça ne se fera pas en 5 minutes. Parce que les gens seront tellement opposés, ils n'en voudront tellement pas qu'il faudra persévérer. Il faudra être patient et prendre le temps. Mais aujourd'hui, combien de personnes et combien de pasteurs prennent le temps d'enseigner la doctrine ? Il y en a très peu. Ça prend du temps. On est toujours trop pressé. On veut un ministère de puissance tout de suite. On veut que ça bouge, ça crie, ça chante, ça remue, ça roule par terre. C'est tout ce qu'on veut. On veut tout tout de suite. Mais on ne prend pas le temps, la patience. Mes amis, si vous voulez un ministère, si vous voulez aider les autres, il faudra être patient. Patient en instruisant les autres, en instruisant la doctrine. Il faut toujours aller à la racine, prendre son temps, aller toujours à l'origine des choses. Amen. Et c'est comme cela que vous pourrez aider les gens. Mais si vous n'êtes pas patient, vous ne les aiderez pas. Mais toujours en revenant à la doctrine, à la parole. Les deux vont ensemble. Alléluia. Sixièmement, car il viendra un temps. Là, il y a un point très important maintenant, qui reflète justement l'esprit qui est actuellement dans les églises. Sixième point, donc, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Soulignez maintenant l'expression « il viendra ». Il viendra. Car il viendra un temps. Il y a là une expression très, très importante. C'est le mot grec « imei », enfin voilà. Signifie « je suis ». Dans le texte grec, ça veut dire « je suis ». Cela décrit une nouvelle attitude égocentrique dans l'Église. Dans les derniers temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus. Il viendra, c'est-à-dire que dans les derniers temps, l'état d'esprit des chrétiens dans l'Église va changer et ils vont devenir égocentriques. Il viendra, c'est l'expression « je suis ». où l'homme, les besoins de l'homme, les désirs de l'homme sont prioritaires. Est-ce que nous ne vivons pas cela maintenant? Cela décrit des chrétiens qui ne sont plus intéressés par la parole, mais par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils cherchent des distractions, des divertissements spirituels. En somme, ils cherchent un spectacle. C'est du spectacle qu'ils veulent. C'est bien ce que beaucoup d'églises aujourd'hui offrent. La pensée principale de ces chrétiens est de passer un bon temps, s'amuser. La substance du message ne les intéresse plus. Ils ne veulent pas de la viande, mais du gâteau. C'est du gâteau qu'ils veulent tout le temps. La viande, la bonne doctrine, ça, ils n'en veulent pas. Donnez-nous du gâteau, c'est ce qu'il veut dire. Il viendra, je suis des hommes égoïstes, qui ne penseront qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas ce que nous voyons? Beaucoup vont dans ces églises uniquement pour passer un bon temps. En Suisse, dans une église, certains chrétiens, le matin, étaient au culte, et tous les dimanches après-midi, ils allaient dans une autre ville pour se rouler par terre et rire pendant des heures. Recevoir leur dose de rire. Et toutes les semaines, ils faisaient cela. C'est comme une drogue. Pourquoi? Pour ne penser qu'à eux-mêmes. Dites-moi, je pense à une chose. Quand Jésus a dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes... Mais quoi? Mes témoins. La puissance que Dieu nous donne lorsque nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, en parlant d'autres langues et tout cela. C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour nous amuser? Est-ce que c'est pour nous passer un bon temps? C'est avant tout pour être des témoins. Cette puissance n'est pas pour passer un bon moment. Cette puissance est pour être un témoin. Apporter la délivrance, le salut, la conversion amène à des multitudes. Mais maintenant, nous avons changé cela. Et nous faisons de cette soi-disant puissance quelque chose pour nous divertir. Et nous vivons exactement cela. Il y a des chrétiens qui ne vont pas à un endroit s'il y a de la doctrine. Ils ne vont que là. D'ailleurs, vous le voyez, quand on annonce des réunions de miracles, tout le monde est là. Allez, vous annoncez une soirée d'études bibliques. Deux, trois pèlerins qui sont là, c'est tout. Deux, trois pèlerins. Mais annoncez une soirée de miracles, est-ce que tout le monde n'est pas là? Est-ce que cela ne nous parle pas, mes amis? Autrement dit, nous recherchons plus ce que le Seigneur peut nous donner que le Seigneur lui-même. Nous recherchons plus ses dons que sa personne. Et c'est là qu'est la tromperie. Ils ne s'occuperont plus des autres, ils ne penseront qu'à eux-mêmes. Et mes amis, vous avez beau donner tout ce que vous voulez à un chrétien qui ne vit que pour lui-même, vous n'arriverez jamais à satisfaire ce chrétien. Sur le moment, ce chrétien est content. C'est toujours la même chose. Oh oui, t'as passé un moment extraordinaire! Mais comme ceux de Suisse, là-bas, la semaine d'après, il faut y retourner parce que ça ne dure pas longtemps. Ça dure une semaine et encore. Ils en font leur dose. Dites-moi, vous croyez que le Seigneur travaille comme cela? Quand le Seigneur fait une œuvre, c'est en profondeur. Et il apporte une profonde satisfaction, n'est-ce pas vrai? Et cela montre que ceux qui courent après ces choses, ça révèle une grave faille dans leur vie spirituelle. C'est qu'ils ne sont pas pleinement satisfaits en Jésus-Christ, ou ils ne se sont pas donnés pleinement au Seigneur et recherchent quelque chose qu'ils n'ont pas en eux-mêmes. Cela réveille une grave faille. Mais si nous sommes heureux avec le Seigneur, qu'est-ce que nous allons chercher à quelque chose ailleurs? Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas vrai? Il viendra. Vous ne croyez pas qu'on est dans ce temps-là, mes amis? On a l'impression que Paul a écrit pour ce temps-là. Pour maintenant, il viendra. Ils ne s'occuperont plus tellement de la parole, mais d'eux-mêmes. On est en plein dedans. Bénissez-moi, 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 c'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre. On en fait des égoïstes. Un égoïste, rappelez-vous bien de cela, vous n'arriverez jamais à le satisfaire. Même si sur le moment il est satisfait, un jour après, il reviendra, il dira encore, 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 encore. Et c'est ainsi qu'il n'est jamais, jamais satisfait. Et ceux qui sont séduits maintenant tomberont dans la nouvelle séduction. Pourquoi? Parce qu'il va leur manquer quelque chose. Comme ce n'est pas vraiment de Dieu, ce n'est pas de Dieu, ils n'ont pas la satisfaction. Et tout ce que l'homme offre est trompeur. Sur le moment, ça nous satisfait. C'est là la séduction d'ailleurs. Mais plus tard, on ressent un vide terrible. Et on a besoin de quelque chose d'autre, n'est-ce pas vrai? L'exemple de la drogue est typique. Sur le moment, ah, ils se sentent aux anges. Ah, extraordinaire quand vous voyez le drogué qui se... Ah, oh là là. Une heure après, deux heures, trois heures après, il est en enfer. Il n'y a plus rien du tout. Dieu ne travaille pas comme cela, heureusement. Amen. Il nous satisfait pleinement. Et nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Le Seigneur, quand il travaille en nous, il nous dit maintenant, va et donne aux autres ce que tu as reçu. Mais dans ces milieux, il n'est pas question d'aller donner. Il est question de recevoir, de recevoir, de recevoir. Et nous en faisons des égoïstes et des égocentriques spirituels qui se détruisent eux-mêmes et qui essayent de détruire la vie des autres chrétiens. Que c'est tragique, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas de viande, mais ils veulent du gâteau. Septième point, je ne veux pas être trop long, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Soulignez, supporteront pas, supporteront pas, supporter. En grec, c'est le mot tolérer. Ils ne toléreront plus la saine doctrine. Vous voyez comme le mot est fort? Ils ne tolèrent plus cela. Arrête! Je ne veux pas entendre parler de cela. Et nous sommes en plein dedans. Vous êtes d'accord? Mais dans certains mouvements, certaines œuvres, on leur dit, quand ils rendent témoignage ici, on ne parle pas de doctrine, ça divise. Et tu dois te taire, un point c'est tout. Ils ne tolèrent pas la doctrine, la saine doctrine. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et il est dit, ils ne toléreront pas la saine doctrine. Et le mot saint ici, veut dire en bonne santé. Une traduction littérale serait, car des personnes égoïstes se manifesteront dans l'Église et ne toléreront plus une nourriture qui est bonne et essentielle pour eux. Ils ont tout ce qu'il faut, ils n'en veulent pas. Tout ce qu'il leur faut vraiment pour grandir, pour s'épanouir, ils n'en veulent pas. Mais ils sont prêts à prendre n'importe quelle autre nourriture. Parce qu'ils ne veulent pas de la bonne nourriture. N'est-ce pas tragique? C'est pour ça que quand on ne veut pas la vérité, mes amis, Dieu nous envoie un esprit de mensonge. Et voilà pourquoi il y a comme un esprit de mensonge au milieu d'eux. Parce qu'ils ont refusé la vérité. Quand il n'y a pas l'amour de la vérité, c'est l'épître aux Thessaloniciens qui nous dit cela. Quand il n'y a pas l'amour de la vérité, Dieu envoie un esprit d'égarement. Et c'est ce qui se passe, mes amis. C'est pourquoi la seule chose qui nous gardera dans ces temps de la fin, c'est l'amour de la vérité. Amen. L'amour de la vérité nous préservera de tous ces esprits d'égarement. 8. Selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Dans le grec, le mot désir veut dire un désir très très fort. C'est une passion profonde. Vous voyez, ce n'est pas une envie passagère, mais quelque chose de très, très profond. C'est une passion. En anglais, d'ailleurs, c'est lust. Les désirs, ce sont des lust. En lust, ceux qui disent en anglais, c'est quelque chose, c'est une passion, c'est quelque chose de très fort. Décrit la condition de leur cœur. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire, que ces désirs soient bons ou mauvais. À partir du moment où on refuse la vérité, alors on ouvre la porte au mensonge. C'est désir. Et là, mes amis, c'est cela. Cette passion de désirer des choses à un tel point que on est prêt à accepter n'importe quoi. Pourvu que ça me fasse du bien. Pourvu qu'on passe un bon temps. Et la jeunesse, par milliers, commence à tomber dans ce panneau-là, n'est-ce pas vrai? Par milliers. En France, dans certaines villes, notre jeunesse, dans certaines églises, on roule par terre et font des choses affreuses. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mes amis, la situation est plus grave que vous ne le pensez. C'est pourquoi le langage de Paul est extrêmement sérieux. Neuvièmement, mais ayant la démangeaison d'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Démangeaison d'entendre. Dans le grec, ça se rapporte à une étrange curiosité pour des choses qui plaisent ou des informations spéciales qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Ce sont des chrétiens donc qui ont la démangeaison, qui sont curieux et qui recherchent toujours de nouvelles choses. Autrement dit, ce sont ceux qui cherchent, ce sont des chrétiens qui vont d'une réunion à une autre pour y chercher quelques nouvelles révélations ou expériences. Cela était impossible il y a 20 ans en arrière. On arrive à cela maintenant à cause. Parce qu'il y a 20 ans en arrière, cela n'était pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on prêchait encore la saine doctrine. Mais maintenant, comme la saine doctrine est enlevée, alors, on est là, maintenant, on est prêt à entendre n'importe quoi. La démangeaison, c'est une curiosité malsaine. Qu'est-ce que le Seigneur a te dit ? Et alors la pensée est celle-ci, et c'est ce manque de saine doctrine qui conduit beaucoup de chrétiens à chercher toutes ces stupidités. Ils crient toujours plus, plus Seigneur, plus de toi. Et vous savez que c'est exactement ces paroles-là qu'on entend dans ces réunions. Veux-tu plus du Seigneur ? Et pourtant, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, soi-disant. Ils parlent en langue et ils veulent encore plus du Seigneur, plus de sa puissance, plus de sa puissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le Seigneur, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, tu as déjà reçu sa puissance. Dans les Actes des apôtres, vous ne voyez aucun endroit où il est écrit, après avoir reçu la puissance de Dieu, les apôtres, étant baptisés dans le Saint-Esprit, à aucun endroit nous les voyons redemander encore plus de puissance. Ce qu'ils faisaient, ils avaient reçu la puissance et ensuite ils allaient prêcher la parole. Ils obéissaient à la parole de Dieu et cette puissance se manifestait dans leur vie. Mais ils n'étaient plus là à demander toujours plus. Vous voyez la ruse ? Quand on a reçu, on n'a plus à demander, il faut maintenant mettre en pratique. Il faut maintenant obéir à la parole. Et plus on obéit, plus la puissance de Dieu agit en nous et au travers de nous. Amen. Mais aujourd'hui, c'est cela. Plus de ta puissance, Seigneur. Ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Le Seigneur nous a déjà donné sa puissance si nous sommes baptisés dans cet esprit. C'est comme si vous disiez, Seigneur, ta puissance, elle ne me suffit pas. Ça, c'est rien du tout ce que tu m'as donné. Ah bon ? Tu commences à négliger ce que Dieu t'a donné ? Ah, tu commences à négliger ? Ah, tu méprises déjà ce que Dieu t'a donné ? Eh bien, tu risques de recevoir autre chose qui va te coûter cher. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Plus de puissance. Voilà ce que le mot démangeaison veut dire. Plus de puissance. Mon ami, si tu es au Seigneur, si tu es converti, si vraiment tu es baptisé dans le Saint-Esprit, que tu parles en d'autres langues, Dieu t'a donné la puissance. Maintenant, obéis. Obéis. Avance. Fais ce que Dieu te demande et tu verras qu'il t'utilisera. Amen. Et que sa puissance se manifestera. Mais ne passe pas ton temps à dire plus de puissance, alors que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et nous l'avons reçue. Chacun, bien sûr, selon le ministère que Dieu lui a confié. Vous êtes d'accord avec moi ? On n'est pas tous dans le ministère, on n'est pas tous des grands évangélistes, ou je ne sais quoi. Ce n'est pas ça le problème. Chacun d'entre nous, nous avons reçu sa puissance, si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Et selon le ministère et les talents que Dieu vous a donnés, vous devez obéir. Et même si c'est une petite tâche, une petite responsabilité, cela ne veut pas dire que vous devez négliger ce que Dieu vous a donné. Ah, mais moi, je veux plus, c'est pas... Voilà, c'est là le problème. Le problème, c'est ton orgueil. Tu veux montrer aux autres que tu as quelque chose de plus. Et c'est cela qui te fera tomber dans le piège. Dieu nous donne sa puissance, non pas pour nous montrer, mais pour élever Jésus et nous rester dans la poussière. Amen. Plus de puissance. Voilà ce qu'on entend. Et voilà le piège dans lequel ils sont tombés. 9. 10, on va en donner 10 parce que ça finirait pas bien. Les 10 points détourneront, et je vais terminer, détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront. Souligner détourner. Dans le grec indique un changement radical dans le caractère des chrétiens. Ils se détourneront. Ça veut dire que, à un moment donné, dans les temps de la fin, nous vivons au moment. Il y aura un changement dans le caractère des chrétiens. Et quel est ce caractère ? De la superficialité, la superficialité, la stupidité prendra la place du sérieux dans la vie du chrétien. Les choses sérieuses, ça ne les intéresse plus. C'est des choses frivoles et superficielles. Et n'avons-nous pas cet esprit au milieu de nous ? Soi-disant un réveil, mais quelle superficialité ! Tout est en apparence, il n'y a rien en profondeur. Vous voyez des gens qui, soi-disant, font des expériences extraordinaires, vous les voyez 15 jours après, ils sont de nouveau dans le trou. Il n'y a rien du tout, c'est du vent. La stupidité prendra la place du sérieux. La superficialité, il y aura un changement de caractère. Et nous vivons cela, n'est-ce pas vrai ? Nous vivons cela, que le Seigneur nous donne de rester sérieux, n'est-ce pas ? Tout en étant joyeux dans sa présence, mais sérieux. Vouloir une vie chrétienne profonde, sérieuse, réelle. C'est comme cela que nous serons vraiment heureux. C'est comme cela que nous goûterons vraiment sa présence et que nous verrons que le message de l'Évangile, le christianisme, est quelque chose que nul homme ne peut nous donner, qu'aucune religion, qu'aucune nouvelle expérience ne peut nous donner. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Et je termine. Détourneront et se tourneront vers des fables. Là, regardez maintenant. Se tourneront, soulignez bien, se tourneront. C'est intéressant, là. Dans le mot grec, se tourneront, en grec, c'est un terme médical, cette fois. Tout à l'heure, on était dans les termes militaires. Maintenant, ils se tourneront, c'est un terme médical qui parle de dislocation d'un membre dans un corps, ou un déboîtement, une luxation. Ce sont là des chrétiens qui sont déconnectés, séparés du corps, déconnectés. Et cette luxation, vous voyez, il y a comme une luxation, c'est comme une hanche qui est, la luxation d'une hanche, d'une épaule, une luxation, c'est quelque chose qui est déboîté. Voilà ce que l'apôtre dit. Ce sont des chrétiens déboîtés. Ce n'est pas étonnant qu'ils boitent. C'est des chrétiens boiteux, en somme. Et eux, ils se prennent pour des chrétiens très spirituels, attention. Et ils vous disent, c'est vous qui boitez. En effet, celui qui boite, il a l'impression que tout le monde boite. C'est-à-dire que non, il a l'impression que lui marche droit et que tous les autres boitent. C'est ça, celui qui boite. Il a l'impression que lui marche droit et puis les autres. Ah, mais c'est drôle, il marche droit. C'est drôle qu'il ne marche pas comme moi. Mais il ne réalise pas que lui, il est boiteux. C'est lui qui est boiteux et que les autres marchent droit, il ne s'en rend pas compte. Et cette luxation, qu'est-ce qui se passe ? Mes amis, quand il y a une luxation dans un corps, cette luxation fait souffrir tout le corps et l'empêche de se développer. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le corps de Christ souffre énormément, n'est-ce pas vrai ? Et un membre déboîté ne se développe pas, vous êtes d'accord avec moi ? Au contraire, un membre déboîté risque de s'atrophier s'il n'y a pas tout de suite la guérison. Ce sera l'atrophie. Mais en attendant, le corps souffre. Et nous avons comme en nous-mêmes une grande souffrance, n'est-ce pas vrai ? Qui peut dire ici qu'il est insouciant, tout ça ? Il y a une souffrance. Et on se dit, mais que faut-il faire ? Eh bien voilà, la Bible nous dit comment il faut faire. Ne faisons pas de sentiments, faisons ce que Dieu nous demande. Sinon, vous allez perdre votre temps. Vous allez vous épuiser dans des méthodes humaines, dans des pensées sentimentales. Faisons ce que Dieu nous demande. Il y a une luxation. Et comment la guérison peut-elle se faire ? Eh bien, seulement lorsqu'ils reviennent à la parole. Amen. Lorsqu'ils disent, je me suis trompé. La parole de Dieu dit ça. Et moi, j'ai fait quelque chose de contraire à cette parole. Pardonne-moi, Seigneur. Je reviens à toi. Vous voyez ? Je reviens. C'est le membre qui se remet en place. Je reviens. Ça y est. La hanche est remise en place. Je reviens. Et maintenant, je me veux te suivre. Et ça y est, c'est parti. Et on repart en marchant normalement. C'est la seule façon de revenir et de marcher droit. Amen. Mais en attendant, il y a une grande souffrance. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser aller. Il faut tenir ferme, quelle que soit la situation. Amen. Ainsi, comment ? Qu'est-ce que c'était le titre ? Qu'est-ce que je vous ai donné comme titre ? Vous n'avez pas oublié quand même. Comment ? Restez fidèles. Ah, je vois que vous avez bien appris. En des temps d'apostasie. Voilà. Le remède est là. Puissions-nous tous obéir, mes amis. Sa parole est la vérité. Attachons-nous à cette parole. Elle nous sauvera. Elle nous guérira. Elle nous délivrera. Elle nous protégera. Amen. Amen. Merci Seigneur de savoir qu'il y a la parole. Comme une épée, comme un fondement. La maison bâtie sur le roc ne s'écroulera pas. Bâtis ta maison sur le roc de sa parole. Et ta maison ne s'écroulera pas lorsque le vent soufflera. Lorsque les vents de fausses doctrines souffleront, ta maison résistera. Alléluia. Et si elle résiste, certains verront que tu as tenu bon. Et ils viendront vers toi pour dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?